Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté la terrible affaire Vaccin. Denis Vaccin, un tueur et violeur en série, condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de trois petites filles à la fin des années 80 et au début des années 90 à Lille, et pour le viol d'une quatrième petite fille et de deux petits garçons. Histoire que je débriefe avec maître Frédéric Deleporte. Vous étiez aux côtés du célèbre et regretté Jean-Yves Moyard, maître Mo, l'un des avocats de Denis Vaccin. Vous savez, vous, pourquoi 29 et pas 30 ?
Il y a deux possibilités. Soit les jurés ont estimé qu'il y avait une altération très partielle de responsabilité. Et dans ce cas-là, ils doivent en tenir compte et mettre un minimum de...
Un petit bémol, quoi.
Un tout petit bémol. Parce qu'ils ont pu considérer, même si les experts psychiatres considéraient qu'il était en possession de ses moyens, qu'il n'était pas fou, pour le dire comme ça, ils ont considéré qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et c'est moins qu'on puisse dire. Alors, l'autre possibilité, est-ce qu'ils ont été sensibles au fait qu'enfin, pendant cette audience, ils livrent complètement ce que tout le monde savait à ce moment-là être la vérité?
Oui, parce que c'est sans conséquence, hein, cette année de sûreté. Donc effectivement, il faut y lire un signe à son égard.
À son égard, ou peut-être même un signe un peu éducatif, disant, vous voyez, si vous allez vers votre juge, le juge peut toujours en tenir compte. Je ne sais pas ce qui se passe au cours du secret du délibéré.
Comment est-ce qu'on accepte, maître Deleporte, d'être l'avocat d'un type aussi peu ragoûtant ?
En sachant, et alors pour ma part, complètement par hasard. À l'époque où je rentre dans le dossier, Denis Vaccin est en délicatesse avec son avocate de l'époque pour une sombre histoire, on va dire, de faux témoignages qui a été ramenée par une tierce personne et qui était censée l'exonérer du viol de la petite Julie. Et son ancienne avocate vient me dire, qu'il me connaissait, il me dit, écoute, le dossier pourrait t'intéresser, à l'époque, une trentaine d'années, à peu près le même âge que Wax. D'ailleurs, elle me dit, écoute, je faisais pas mal de pénal, et elle me parle du dossier du Julie, qui était un dossier sordide, mais qui, évidemment, n'avait pas le degré de profondeur dans l'horreur, quasiment inédit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on a découvert par la suite avec les trois petites filles. Et à cette époque-là, il y avait encore des questions qui se posaient chez le juge d'instruction, et ce dossier n'était pas suivi par Christophe Ingrin, mais par un autre juge d'instruction, et des questions se posaient réellement parce que la petite Julie, on va dire qu'il y avait eu des hésitations, il y avait des questions qui se posaient, et le dossier n'était pas bouclé. Et avec cette histoire de faux témoignages, le dossier avait un petit peu traîné, et là... Vous avez évoqué tout à l'heure les retards
dans la
poursuite de l'enquête. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que s'il n'y avait pas eu cette histoire de faux témoignages et ce changement d'avocat, il est tout à fait vraisemblable que le dossier concernant la petite Julie aurait été bouclé, qu'il aurait été renvoyé devant la cour d'assises et qu'une condamnation s'en serait suivie, mais que jamais le rapprochement avec les autres dossiers n'auraient été faits.
Pourquoi ?
Et ça, c'est quelque chose... Parce que les autres dossiers avaient été confiés à M. Ingrin, comme vous l'avez évoqué, et ils étaient en train... C'était des dossiers... Alors, il y en avait
ils étaient en train classés. En cours de classement les uns après les autres.
Hein. Il y en avait deux qui étaient déjà classés. Et, le troisième allait suivre parce qu'on ne trouvait pas. Vous rappelez, je m'excuse auprès des familles, je ne sais plus si c'était la famille de Nathalie ou la famille de Cathy, et qui avait même mobilisé les médias à une époque, une émission de Jacques Pradel, pour retrouver des traces, parce que ces gens ne voulaient pas croire que quelque chose qui se passe en ville, en plein jour, au vu et au su de tout le monde, personne n'ait rien vu, n'ait rien entendu, etc. Et on n'a rien retrouvé pendant toutes ces années, pendant 15 ans. On n'a rien retrouvé.
Est-ce que vous pourriez, maître Deleporte, nous parler de cet homme que vous avez vu à plusieurs reprises? L'idée qu'on se fait quand on raconte ou qu'on écoute son histoire, c'est que c'est une brute. Mais je sais que d'expérience, je me trompe.
C'est ce qu'on imagine, et c'est ce qu'on entendra dans le récit. Mais quand on croise cette personne physiquement, on a l'impression tout à fait inverse. C'est quelqu'un qui a un physique ordinaire et qui n'a pas le regard qu'on peut trouver chez les serial killers célèbres, j'allais dire un Ed Kemp, un Ted Bundy, que sais-je encore.
Oui.
Et qui a au contraire, j'allais presque dire une bonne bouille. Et c'est pas du tout surprenant qu'il ait réussi à séduire des enfants et à les emmener là où il avait envie de les emmener.
C'est quelqu'un de sympathique, bon, pour l'avocat que vous êtes ?
Non, mais le rencontrant dans ces circonstances-là, évidemment, j'ai un biais. Ceci étant, c'est un garçon... Non,
parce que, par exemple, Jakubowicz dit que Nordal Lelandais est un type sympa.
C'est possible, mais j'ai connu, dans d'autres circonstances, j'ai connu des gens qui étaient accusés de faits parfaitement dégoûtants et qui étaient des gens avec lesquels, effectivement, on pouvait avoir un contact aimable. Mais j'ai envie de dire que Denis Waxin, il y avait trois couches d'épaisseur de mystère entre lui et n'importe lequel de ses interlocuteurs.
D'accord. Il est insaisissable.
Complètement insaisissable et, j'allais dire, ingérable. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, et je crois que c'est la seule fois dans ma carrière où j'ai vu ça, c'est que avant chaque interrogatoire, bien évidemment, on rencontre la personne qu'on va assister dans le but de préparer l'interrogatoire, de savoir un petit peu où on va, ne serait-ce que savoir si on va avoir droit à la vérité ou si on va avoir droit à une fable absolument extravagante. Et après plusieurs tentatives, il avait décidé qu'il ne préparerait plus ses interrogatoires parce que ce qu'il avait à dire, il voulait le dire au juge et il voulait le dire au juge et à lui seul. Mmh. Alors, ce qui rendait le travail pas très facile parce que une fois qu'on était face au juge d'instruction, eh bien, suivant l'humeur du moment, il partait soit dans des choses assez brèves et assez précises, soit dans des délires complètement extravagants. Il a essayé même, lors d'un certain interrogatoire, de rajouter à l'horreur des faits, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de rajouter à l'horreur des faits, et on n'avait strictement aucune explication à ce type de comportement, complètement incohérent.
Il est ingérable aussi quant au procès dans le dossier de Nathalie, ce meurtre qu'il commet à l'âge de 17 ans. Il se met à genoux devant la mère de Nathalie, il lui dit « Vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire et je vous pardonne ». Ça pour vous, c'est terrible.
C'est exactement la même attitude. Mmh. Exactement le même type d'attitude.
Alors on est d'accord que Denis Waxin n'est pas né violeur et tueur, qu'il l'est devenu. Qu'est-ce qui fabrique ce type monstrueux, dont j'ai dit d'ailleurs que ça n'était pas un monstre, que ça serait trop facile de le qualifier de monstre, vous êtes d'accord avec ça ?
Il s'est passé quelque chose entre le moment où ça a été un petit enfant, j'allais dire un enfant comme les autres, vraisemblablement, et l'âge de 17 ans, et ça a marqué tout le monde, savoir comment est-ce qu'un gamin de 17 ans peut se dépuceler, excusez-moi du terme, en violant une enfant qui en a 6. C'est parfaitement insensé. Et dans l'intervalle, personne ne voit rien. D'ailleurs, on n'a pas de grandes traces de ce qui serait passé pendant sa scolarité, pendant son adolescence, toutes ces choses-là. Là encore, tout ça demeure de l'ordre du mystère. Alors, les constantes, effectivement, dans les serial killers, c'est l'absence d'affection et très souvent des attitudes manipulatrices d'un des parents, la plupart du temps la mère. Avec un rapport à la mère extrêmement complexe.
Elle est là, la mère, au procès, d'ailleurs ?
Alors, je ne m'en rappelle pas. La famille, dans la plupart des cas, avait plutôt choisi de se tenir éloignée.
Le seul moment où on peut imaginer que se fabrique le psychopathe qui va tuer et violer ses trois filles et violer trois autres enfants, c'est ce moment où sa mère devrait lui donner de l'amour et elle ne lui en donne pas.
Alors, c'est tout à fait possible. Il y a aussi une seconde possibilité qui a été évoquée dans le dossier et qui a été évoquée à deux reprises devant chacun des juges d'instruction, qui est l'agression dont il avait affirmé à un moment donné avoir été victime. Alors, dans des conditions complètement extravagantes, là encore, hein, puisqu'il avait raconté une histoire invraisemblable.
Violé par un clochard, là.
Mais c'était même mieux que ça à une époque, si j'ose dire. C'était une espèce de personnage qui ressemblait plus ou moins à un sorcier vaudou et qui aurait sorti des poches de sa mobilette une poule vivante qu'il aurait sacrifiée devant lui pour lui faire peur. Voilà.
D'accord. Je connaissais pas ce détail-là, mais là-dessus, il est revenu là-dessus. Là.
Et puis par la suite, où il a dit que c'était pas vrai, enfin, il en a fait d'autres. Hein,
oui. C'est un de ces allers-retours. Le psychologue suggère une piste qui est liée évidemment à sa maman. Il dit qu'il y avait dans les actes qu'il commettait une volonté de tuer la mère, en observant qu'effectivement il a tué les petites filles et épargné les petits garçons.
C'est une vraie possibilité, ouais, c'est tout à fait une piste. Et alors il restera, si j'ose dire, le mystère de Julie, entre guillemets, qui a eu la chance dans son malheur d'en réchapper. Mais c'est vrai que dans les petits garçons, je me rappelle de plus précisément d'une des deux histoires, il est parti très vite après avoir perpétré son acte.
Ouais. Et tu es pas la mère.
Il tuait pas la mère. Peut-être qu'il assurait simplement la domination sur le père ou sur les autres ou sur les autres hommes.
Bon, après,
qu'il avait pas besoin d'aller.
Les psychologues parfois ça délire. Hein. Alors, ce qui est étonnant, ce sont les pauses dans les crimes, parce qu'on a donc un gamin qui a 17 ans en 85, qui viole et qui tue pour la première fois la petite Nathalie, et après pendant 5 ans il se passe rien. Et on peut pas imaginer que un garçon qui sort de l'adolescence, qui est en plein bouillonnement sexuel, n'ait pas commis d'autres crimes entre ses 17 ans et ses 22 ans. Est-ce qu'il y a eu la recherche d'autres crimes ? Il en a avoué spontanément, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait commis d'autres viols ?
Je crois qu'après les problèmes d'enquête de Cathy, de Nathalie et de Nadia, les policiers ont essayé vraiment de faire un... J'allais dire de racler les fonds de tiroir, parce que au début, dans ses premières déclarations, chez Christophe Ingrin, il va quand même nous dire que voilà, il y a celle dont il se rappelle du nom et des circonstances, mais qu'il en a violé grosso modo un ou une par an.
D'accord.
Pendant 15 ans.
D'accord.
Pendant 15 ans.
Des dossiers qu'on n'a jamais réussi à relier à lui.
Non, on a retrouvé deux des garçons. Vous avez dit tout à l'heure, hein, il manque. Si j'ose dire, deux petites filles.
Oui.
Il y en a peut-être eu d'autres, mais il est également possible qu'il y ait eu une part d'affabulation là-dedans. Je me rappelle de quelque chose. À une époque, il était à une époque de ses détentions provisoires, il était à Longnes et il avait comme camarade de quartier, si j'ose dire, l'un des frères Jourdain.
Ah, sympa.
Et, entre personnages de cet acabit, il se passait des idées pour leur défense, parce que le premier l'autre était déjà jugé, mais enfin, s'il pouvait lui donner des idées pour se défendre, peut-être de se faire passer pour encore plus anormal qu'il n'était dans l'espoir d'échapper à la justice pour cause de folie, ou que sais-je encore, hein, j'allais dire, ce sont des possibilités, ce qui fait que toutes ces déclarations, on est obligé de les prendre avec une certaine réserve.
Alors, je voudrais qu'on consacre quelques minutes au deuxième procès, à ce procès où il craque et où il accepte pour la première fois de tout raconter sans faire de marche arrière. Je crois avoir compris que ce sont ses avocats, c'est vous et Maître Moyard, qui le lui avez conseillé. Évidemment, ça peut surprendre, puisqu'on a toujours l'image de l'avocat qui défend, mais jamais de l'avocat qui aide à accoucher.
Alors c'est le travail, à ce moment-là, c'est le travail exclusif du regretté Jean-Yves Moyard, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est lui qui a réussi à faire ce travail-là. J'avais, à ce moment-là, jeté l'éponge, parce que j'avais l'impression que je n'arriverais à rien. Et donc... Jean-Yves Moyard a fait un travail exceptionnel. Alors j'avais essayé de le faire auparavant, mais ça marchait une fois, et puis le lendemain, c'était passé. Je crois que, et là encore, hein, même pendant la phase de l'instruction, Christophe Ingrin avait fait un travail exceptionnel dans ce sens-là, en comprenant, comme l'avait compris Mme Schneider par la suite à Saint-Omer, qu'il fallait y aller doucement.
Ouais.
Pour obtenir quelque chose. Et effectivement, il faut savoir, c'est le sujet pas du tout évoqué ici pour l'instant, il faut savoir que Denis Vaxin avait une obsession vis-à-vis de sa femme, parce qu'il était marié.
Ouais.
Et il n'a pas voulu, il refusait pendant toute une partie du dossier d'avouer les choses devant sa femme.
Oui.
Et c'était quelque chose d'ailleurs d'extrêmement pénible à porter, parce que bah, je devait recevoir sa femme de temps à autre, qui s'inquiétait de l'avancement de l'instruction, etc., et qui considérait que son mari était innocent. Quand bien même tous les journaux avait expliqué qu'il avait reconnu les faits. Mais ça n'avait aucune importance. Et quand vous évoquiez tout à l'heure la question du complot sur laquelle il était revenu, notamment devant dans la partie mineure des dossiers, eh ben on repartait là-dedans. Et j'allais dire, enfin la libération pour tout le monde a pu être faite au moment du deuxième procès. Mmh. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur notre rôle, qui peut être le rôle d'accoucheur, ben vous savez, il y a un moment où on ne peut plus faire grand-chose d'autre pour un homme, sinon d'essayer de l'inciter à retrouver une part d'humanité minimale, de revenir un petit peu dans le cercle des humains.
Et ça marche, parce que pendant la plaidoirie de Maître Mot, peut-être aussi pendant la vôtre d'ailleurs, il crie « pardon, pardon, pardon ». C'est-à-dire qu'au-delà de ses aveux, quelques jours plus tard, il est toujours dans la contrition. C'était pas gagné.
Non, c'était pas gagné d'avance. Et alors, j'ai pas plaidé ce jour-là, j'ai pas plaidé à ce moment-là. Là encore, je peux tirer mon chapeau à Jean-Yves Moyard, parce que il a réussi à faire ce qui était nécessaire pour tout le monde. Et c'est absolument... je crois que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a réussi à faire là. Et c'était le seul sens qu'il pouvait encore y avoir à une défense. Parce que quand vous avez des faits qui sont établis, et ces faits-là étaient établis, par-delà toutes les vérifications qui sont nécessaires, qu'on doit faire. Hein, ne serait-ce que... Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans ces dossiers-là, c'est qu'on ne peut jamais laisser courir le risque de condamner quelqu'un pour un acte qu'il n'a pas commis, quand bien même ça ne changerait rien à sa peine. Et ça pour une raison toute simple. C'est que si vous condamnez un Denis Waxin, un Fourmier, à qui vous voudrez, pour un crime qu'il n'a pas commis, ça veut dire que l'auteur de ce crime-là est toujours en train de courir.
Dernière chose, on dit Waxin ou vaccin ? Je vous ai entendu changer votre fusil d'épaule plusieurs fois. On dit Waxin comme Waxing.
C'est un petit peu ça, c'est la culture, on va dire, la culture au nord de Paris. Le W et le V sont des mystères permanents.
Merci beaucoup, Maître Delporte, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire tant d'années après.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.